Toucher Terre, Émilie Glory, sur Radio Grand Ciel.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Toucher Terre. Au sommaire, bien sûr, nos deux associations partenaires. Avec le Conservatoire d'Espaces Naturels Centre Val-de-Loire, nous parlerons chantier. Eure-et-Loire Nature a choisi quant à elle de mettre en lumière une association amie, Micromis 28, qui déploie d'importants efforts pour la réintroduction du plus petit mammifère d'Europe, Micromis minutus. Et puis, l'entretien du mois est consacré à un cortège d'espèces aussi fascinantes que primordiales, dont on ne parle malheureusement pas assez, le plancton. Pour nous en parler, rien de moins que l'un des plus grands spécialistes français, Christian Sardet, initiateur du projet Tara Océan et auteur du livre « Plancton, aux origines du vivant » qui vient de reparaître en version augmentée aux éditions Ulmer. Pour débuter ce numéro, un marronnier. C'est ainsi que l'on surnomme les sujets d'actualité qui reviennent inexorablement chaque année à la même période. Et bien pour le Conservatoire d'Espaces Naturels Centre Val-de-Loire, ce sont les chantiers d'automne. Et de fait, on vous a déjà plusieurs fois parlé de ces chantiers participatifs qui permettent d'aider à la gestion d'un site naturel. Alors, pourquoi y revenir ? Eh bien, pour la même raison qu'un marronnier en automne est une source inépuisable de joie renouvelée et qu'il n'est jamais tout à fait le même, comme nous tous d'ailleurs. Sylvain Garbard, garde animateur de l'antenne eurélienne du Conservatoire d'Espaces Naturels, va nous prouver qu'on n'est jamais au bout de nos surprises. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Alors merci de revenir en studio avec nous pour évoquer donc les chantiers d'automne. Je disais à l'instant, on en a déjà parlé à nos auditeurs, mais finalement ces chantiers, ils sont toujours source de surprises puisqu'il n'y en a jamais un qui ressemble à un autre.
Complètement, les thématiques sont très diverses. Donc pour rappel, l'opération chantier d'automne, c'est des opérations qui sont lancées, enfin portées par la Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels. Mmh. Donc là, cette année, c'est la 21e édition. Et le but premier de ces chantiers-là, c'est d'associer la population locale à une action de préservation de la nature sur un site juste à côté de chez lui.
Alors là, donc 21e édition, c'est vrai que ce concept de chantier participatif, en fait, il est de plus en plus populaire, mais vous pratiquez depuis fort longtemps. Qu'est-ce qui se passe lors de ces chantiers ? En fait, quelle est leur utilité ? Pourquoi est-ce que vous organisez ces chantiers ?
Alors ces chantiers répondent à une problématique de gestion qui peut être très variée. Ça peut être la problématique des espèces exotiques envahissantes, donc par l'arrachage par exemple de renouées du Japon ou de Jussy, des ramassages de déchets. Ça peut être aussi parfois la création de mares, donc là pour créer un habitat naturel qui va être favorable à la biodiversité. Ça peut être des opérations de taille d'arbustes, de création d'arbres têtards, de fourches, enfin c'est vraiment très très varié. Et à chaque fois, ça répond à un des enjeux qui est mis en avant sur nos plans de gestion par rapport au site naturel.
Alors évidemment, vous n'organisez pas des chantiers participatifs pour tous les sites du conservatoire. Vous sélectionnez, on va voir peut-être un peu plus tard comment. En tout cas, ce besoin de gestion à l'automne, là par contre, il est commun à tous les sites. Est-ce que vous, notamment Sylvain, vous visitez tous les sites du conservatoire en Eure-et-Loire ?
Alors complètement, c'est pour ça que l'opération s'appelle chantier d'automne, parce que c'est la période qui est favorable pour la gestion, enfin pour mettre en œuvre les opérations de gestion sur les sites. Parce que ça correspond à la période de repos de la nature. Au niveau de la végétation, les plantes ont terminé, ont fait leurs graines. Au niveau de la faune, la reproduction est terminée. Certaines espèces vont entamer d'ailleurs leur période d'hibernation. Donc c'est la période où on va avoir le moins dérangement et le moins d'impact sur la biodiversité.
Depuis quelque temps, on prodigue d'ailleurs ce conseil aux particuliers de ne pas intervenir dans leur jardin n'importe quand. Il faut respecter les saisons.
Effectivement, donc il y a des périodes qui sont très néfastes en termes de gestion. On peut citer par exemple le printemps. Tailler sa haie au printemps, ça va être fatal, notamment pour les oiseaux, puisque ça va être source de dérangement pour la nidification. En plein été, eh bien là, par contre, on va avoir un gros impact sur les populations d'insectes, mais aussi au niveau des fleurs qui vont pas pouvoir monter en graines. Donc là, ça va avoir une incidence, par exemple, sur les annuelles, donc c'est-à-dire les plantes qui ne survivent pas d'une année à l'autre et qui ont la nécessité de faire des graines pour pouvoir continuer à exister. Donc si tous les ans, on coupe les fleurs d'annuelles, elles pourront pas monter en graines, et petit à petit, eh bien, au final, ces plantes-là ne pourront plus continuer à exister.
Alors par rapport à ce pourquoi des chantiers, on peut entendre ici et là parfois de la part des défenseurs de la nature que il vaut mieux laisser faire et ne surtout pas intervenir. Alors ce n'est pas la politique du conservatoire, mais elle est tout à fait justifiée, cette politique.
Alors cette politique, elle est justifiée et on va dire que ça va dépendre de plusieurs philosophies qu'il peut y avoir au niveau des écologistes. Il y a l'homme avec la nature, il y a l'homme qui va gérer la nature. Nous, on est plutôt dans la philosophie d'intégrer l'homme avec la nature. Donc, c'est-à-dire que la nature et l'homme, au final, ont quand même cohabité depuis très longtemps. Et il y a énormément de milieux naturels qui sont complètement liés aux activités faites par les hommes, notamment les activités agricoles. Citons par exemple le pastoralisme, qui a nettement participé au maintien et à la création de zones qui sont dites ouvertes, qui sont favorables à certaines espèces d'orchidées, mais aussi d'insectes qui adorent le soleil. Aujourd'hui, avec la déprise agricole, la mécanisation, ces espaces-là disparaissent, et les espèces qui sont liées.
Et s'il n'y a pas d'intervention de votre part, ce sont des espaces qui vont se refermer?
Complètement. Des espaces qui vont se refermer, qui à terme vont peut-être même devenir des boisements. Et les espèces qu'on va retrouver dans une forêt ne sont pas du tout les mêmes qu'on va retrouver sur une pelouse sèche, par exemple.
Donc, on a compris qu'il y avait une gestion très différente en fonction des sites en Eure-et-Loir. Quelle gestion on va retrouver sur les sites qui nous concernent?
Alors, en Eure-et-Loir, on va avoir pas mal de, on va dire, un panel assez différent d'opérations de gestion, puisqu'on a la chance d'avoir un panel diversifié aussi de milieux naturels, que ce soit des zones humides ou des zones sèches. On va dire, les opérations phares sont le pâturage, mais qu'on met en œuvre quand même tout au long de l'année. Si je me concentre vraiment sur les opérations qu'on va mettre en œuvre en automne, donc ça va être principalement des actions mécaniques, donc des restaurations de milieux, par exemple. Donc ça peut être justement l'abattage de certains arbres, où là par exemple au niveau des rémanents donc, ou des fûts, on va faire lorsqu'on ne peut pas valoriser le bois, on va faire des piles de bois, donc, ce qui va être favorable entre autres aux champignons, à la microfaune comme les rongeurs, aux amphibiens qui vont retrouver refuge dans ces piles de bois là, mais aussi certains insectes dits xylophages, donc qui se nourrissent du bois. On peut aussi créer des arbres têtards à cette époque-ci, qui aussi vont avoir un intérêt lorsqu'ils vont grandir, puisque c'est des arbres qui vont se creuser et qui vont pouvoir abriter, par exemple, des chauves-souris.
C'est une pratique très ancienne qui est un petit peu qui a été oubliée et puis qui redevient un petit peu au goût du jour, on va dire.
Oui, en fait, c'est une technique de taille d'arbres qui était complètement liée, on va dire, à l'élevage, mais aussi pour faire du bois de chauffage. Parce que cette taille des arbres, donc en fait un arbre têtard, c'est tout simplement un arbre où on va couper toutes les branches à partir de 2 mètres de haut, et ça va faire des rejets. Donc d'une part, ça mettait ces branches-là hors d'atteinte, pour les animaux, donc qui ne vont pas consommer les repousses. Et en plus, en ayant un grand linéaire d'arbres têtards et en les taillant régulièrement, ça permettait de faire du bois de chauffage puisqu'il faut les couper lorsque les diamètres des bois sont entre 10 et 15 cm.
Et donc, ça présente un intérêt pour de nombreuses espèces.
Voilà, puisque au niveau de ce qu'on appelle le bourrelet cicatriciel, ça va commencer à se creuser. Il y a même des arbres têtards qui sont centenaires, voire plus. Mmh. Et à l'intérieur, ça va faire des trous qui vont être favorables, par exemple, à la chouette chevêche, les chauves-souris, au lucan cerf-volant aussi. Et parmi les arbres têtards, il y a même un insecte particulier qu'on va retrouver notamment dans le Perche, ce qu'on appelle le pic-prune, qui est un insecte qui est très rare et qui vit que dans le terreau qui est présent dans les arbres têtards.
Très bien. Alors, on va peut-être céder des deux exemples de 2022 pour mieux comprendre peut-être votre action avec les chantiers d'automne. Donc, deux chantiers assez différents.
Oui. Alors, les deux sites sélectionnés, on va dire, parce que, comme vous l'aviez évoqué, tous les sites n'accueillent pas un chantier d'automne tous les ans. On fait varier les sites en fonction justement des chantiers à mener. Donc le premier a eu lieu sur le site des Bois de Gilfos à Chaudon, donc un site avec des gros enjeux archéologiques mais aussi géologiques, puisque c'est un endroit où on va retrouver un paléosol, donc c'est-à-dire le sol qui est le vestige de la dernière glaciation. Et c'est le seul endroit en Europe où on peut voir ce sol.
Tout de même.
Voilà. Et donc là, l'objectif, c'était de restaurer le front de taille où est visible justement ce paléosol, puisqu'il commençait à être envahi par du lierre, mais aussi certains petits arbustes qui poussaient. Donc l'objectif du chantier, c'était d'arracher le lierre qui poussait sur le front de taille. Les bénévoles ont d'ailleurs été tellement productifs qu'on a même pu faire une autre opération. C'est de mettre en sécurité ce front de taille en faisant un petit dressage avec des branches qu'on a retrouvées sur place, et on a même fait des cordages avec de la ronce, comme on pouvait le faire autrefois. Et le deuxième chantier, c'était à la Tourbière des Fous, cette fois-ci à Manou, donc là, qui est un site humide, où l'objectif était d'arracher des arbres qui ont tendance à justement coloniser la tourbière, mais aussi des touradons, qui sont des buttes d'herbes, qui là aussi vont refermer le milieu, pour favoriser, entre autres, deux plantes carnivores qui sont protégées en région Centre-Val de Loire pour la Grassette du Portugal. C'est la seule station qui est connue pour le département. Et il y a aussi une seconde plante carnivore qui est apparue l'année dernière, c'est la Drosera rosolis, qui n'était pas connue sur le site encore.
Très bien. Alors, comment se déroulent ces chantiers participatifs? Il y a une très bonne ambiance.
Oui, l'avantage de ces chantiers, c'est que c'est familial, c'est convivial. Il y a des anciens, il y a des jeunes, donc il y a déjà le café viennoiserie d'accueil pour un petit peu débriefer avant d'aller sur les opérations, donc, ce qui permet aussi de faire connaissance et de connaître les objectifs et les enjeux du site. Ensuite, eh bien, chacun prend poste, j'ai envie de dire, parce que chacun peut avoir une mission différente. Il y en a un qui va par exemple arracher les branches, d'autres qui vont faire des tas. Donc chacun trouve assez rapidement son poste. Ensuite, il y a la pause déjeuner le midi. Et enfin, en général, il y a une petite visite du site avec toujours beaucoup d'échanges lors du chantier au gré des questions et des participants.
Alors, c'est vous qui coordonnez ces chantiers, Sylvain. Moi, je me dis que ça sert à rien que je vienne, je vais vous servir à rien. C'est pas vrai, on a toujours quelque chose à faire.
Non, voilà, on a toujours l'impression de se dire bon, si je viens pas, de toute façon, ça se verra pas plus. Ou, je sais pas, j'ai un peu mal au dos en ce moment et je peux pas faire grand chose. Non, c'est ça, la force qu'il y a dans les chantiers bénévoles, c'est que on peut faire beaucoup de travail. Avec la synergie qu'il peut y avoir avec tous les participants, et justement chacun participe comme il le peut. Donc il y a ceux qui vont vraiment vouloir couper tous les arbres, et puis après on peut participer. Il y a toujours une mission pour la force de chacun.
On peut être soutien psychologique, c'est
précieux. Il en faut également, et ça aide aussi.
Alors, ces deux chantiers se sont bien passés. Il y a eu des participants suffisamment?
Oui, on a la chance en Eure-et-Loire d'avoir une bonne dynamique au niveau des chantiers bénévoles. Donc à Chaudon, il y a 10 personnes qui se sont rassemblées, essentiellement en plus des habitants du village. Et à la Tourbière des Frous, c'est 13 personnes aussi qui se sont rassemblées. Donc au niveau des données de fréquentation que l'on peut avoir au niveau régional sur les chantiers que l'on mène, avoir 10 participants sur un chantier bénévole, c'est vraiment top.
Un beau, beau succès. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui se disent « bon, c'est raté pour cette année », on les rassure, l'opération est reconduite année après année, donc rendez-vous en 2023.
C'est bien ça, pour la 22e édition. Et puis, il y a des petites opérations qu'on peut faire aussi à la maison sans être dans le cadre de chantier
pour
d'automne.
Pour s'entraîner un petit peu, c'est ça, avant l'année
voilà,
prochaine.
Qu'on peut faire au jardin, des petites choses qui vont être favorables à la biodiversité. Donc, on a déjà évoqué des piles de bois, créer des arbres têtards. On peut aussi faire des tas de pierres qui vont être favorables, notamment aux reptiles comme les lézards qui vont venir se chauffer dès le printemps. Garder un secteur où on ne va pas tondre durant tout l'hiver, ça va être favorable pour les insectes. Pourquoi pas aussi créer une mare pour accueillir les amphibiens.
C'est la période propice pour toutes ces actions. C'est vraiment, on va dire, avant...
Période des gros travaux.
C'est ça, d'accord.
Voilà, avant le printemps.
Avant le printemps.
Avec un point particulier au niveau de la création d'une mare, puisqu'il faut faire d'abord quand même une déclaration en mairie. On ne creuse pas une mare comme ça dans son jardin. Il y a des autorisations à avoir. Et puis, si vous avez une cave, pourquoi pas aussi faire un trou sur la porte. Il n'y a pas besoin d'un gros trou pour pouvoir accueillir des chauves-souris dans la cave. Alors, qui vont venir soit pendant l'hiver pour l'hibernation, si vous avez vraiment une grande cave, ou sinon pour accueillir des mâles durant l'été, parce que les mâles sont assez solitaires et peuvent trouver refuge dans la cave. Et en retour, ils vont vous donner du guano, qui est un formidable engrais, qui est encore mieux que le fumier de poule. Donc, c'est du non-non-non. Et en plus, ils vous feront un bon anti-moustique cet été, puisque les chauves-souris peuvent consommer jusqu'à 600 moustiques par heure. Donc, voilà.
Et on les en remercie. Le mois dernier, Sylvain, j'ai eu le plaisir d'interviewer Vincent Algoui, qui est entomologiste, et qui a aussi écrit un livre avec Denis Richard, « Comment accueillir la faune sauvage au jardin ». Finalement, ce sont toutes ces petites astuces qui peuvent sembler simples, mais qui sont les plus efficaces. Il n'y a pas besoin forcément de nichoirs ou de choses trop sophistiquées, même si ça peut aider aussi. En fait, il y a des tout petits gestes qui peuvent aider, même sans grand moyen.
Voilà, et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est si, en général, ce qui peut être décevant si on achète un super nichoir, c'est que, par exemple, les oiseaux, ils vont pas y aller. Il nous paraît très beau. Moi, à titre d'exemple, chez moi, j'avais mis un beau nichoir jusqu'au jour où il s'est décroché à moitié, et c'est que depuis, il s'est décroché qu'il y a des oiseaux qui sont venus nicher dedans.
N'hésitez pas à tester peut-être des solutions qui vous semblent un peu bricolées, mais ça peut fonctionner. Merci beaucoup, Sylvain, pour ce rappel. Donc, rendez-vous pour la 22e édition des Chantiers d'automne en 2023. Et puis, à très bientôt pour l'actualité du Conservatoire.
À bientôt.
Merci, Sylvain, pour cette redécouverte des Chantiers d'automne. Pour en savoir plus sur les actions du Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire et sur les sites dont il a la gestion, vous pouvez visiter son site internet qui est très complet et dont vous trouverez le lien sur la page de cette émission. Avant de retrouver nos amis d'Eure-et-Loire Nature, prenons une courte pause en musique avec le groupe britannique Coldplay, Don't Panic. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. We'll be right back. C'était Coldplay dans Toucher Terre, les mille et une vies du plancton. C'est tout à l'heure dans la dernière partie de cette émission, en compagnie du chercheur Christian Sardet, dont le livre Plancton aux origines du vivant vient de reparaître en version augmentée aux éditions Ulmer. Avant cela, nous avons rendez-vous avec le plus petit mammifère d'Europe, que l'on désigne sous son nom latin Micromys minutus, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure grâce à notre invité Romain Cassaigne. Il a créé une association, Micromys 28, soutenue par nos partenaires d'Eure-et-Loire Nature et qu'ils ont choisi de mettre en avant aujourd'hui. Il faut dire que sa mission est particulièrement intéressante pour la nature eurélienne, d'où ce tout petit mammifère a presque totalement disparu. Elle s'emploie à réintroduire des individus dans l'espoir de voir de nouveau prospérer cette espèce dite parapluie, autrement dit, dont dépendent beaucoup d'autres. Retrouvons Romain Cassaigne, grand défenseur du petit rongeur. Bonjour Romain Cassaigne, alors nous allons évoquer avec vous un poids-plume qui prend beaucoup de place dans votre vie désormais. Pour nos auditeurs, pourriez-vous dresser le portrait de Micromys minutus ?
Alors Micromys minutus, c'est un micromammifère de 6 grammes, juste pour situer, une souris c'est 25 grammes, donc c'est entre un cinquième et un quart de souris. C'est un tout petit mammifère donc qui a une niche écologique, un milieu très particulier, à savoir les prairies hautes permanentes. En fait, c'est un rongeur qui a la particularité de vivre dans des nids qu'il tisse comme des oiseaux, avec une petite entrée un peu comme des nids de troglodytes, pour ceux qui connaissent l'oiseau qui correspond, et qui fait des tout petits nids comme ça, et qui vit dans les strates hautes, dans les hauteurs des graminées, et qui a une queue préhensile, un petit peu comme les singes. C'est le seul mammifère européen à avoir ça, d'ailleurs, pour faciliter ce déplacement-là.
Romain, d'emblée, ce qui va surprendre nos auditeurs, c'est le terme latin Micromys minutus. Son nom vernaculaire à cet animal, c'est rat des moissons, et il peut évidemment prêter à confusion. Est-ce que c'est pour cela que l'on préfère l'appellation latine ?
Oui, exactement. En fait, Micromys minutus, ça veut dire petite souris minus, quoi, vraiment très petite. C'est tout de suite plus glamour, disons, que rat des moissons. Il n'y a qu'en français qu'on le traduit comme ça. D'ailleurs, pas mal de scientifiques militent un peu pour changer ce nom-là parce qu'il correspond à rien. Alors non seulement ça n'a rien à voir avec un rat, et en plus il ne va pas dans les moissons. Parce que comme je le disais, il ne vit que dans les prairies hautes permanentes. Les moissons détruisent des graminées hautes, enfin les fauches, ce qui est normal. Et du coup, il ne peut pas vivre dans la monoculture comme on la connaît aujourd'hui. Donc il ne vit pas dans les moissons et ce n'est pas un rat. D'ailleurs, il n'a jamais été classé dans toute l'histoire de l'humanité comme un nuisible. Voilà, parce qu'il fait pas de mal ni aux moissons, ni aux particuliers, parce qu'il rentre pas dans les maisons comme le pourraient le faire les souris, les mulots ou même les rats.
Ce micro-mammifère, justement, il semblerait presque exotique pour nous autres Euréliens. Et de fait, il a quasiment disparu de notre département comme de beaucoup d'autres. Est-ce que l'on sait pourquoi ?
Alors oui, autrefois c'était l'un des plus courants en termes de micromammifères dans l'Eure-et-Loire. Bon, maintenant il est carrément exceptionnel, hein. On a encore quelques données, il y a 4-5 données dans les 30 dernières années en Eure-et-Loire. Alors les causes de sa disparition, en fait, c'est lié à la disparition de son habitat principalement, puisque tout est fauché une fois par an. Les bords des routes sont fauchés, les jardins sont tondus, les zones agricoles sont soit pâturées, soit moissonnées, les tours de zones industrielles sont tondues, enfin voilà, on ne laisse pas l'herbe haute s'installer, de manière durable en tout cas. Alors c'est vrai que ça s'améliore, hein, les gens fauchent de moins en moins, mais malheureusement, il existe très peu de zones où on laisse les graminées hautes à l'année.
Alors vous avez décidé de créer une association, Micromys 28, spécialement dédiée à la réintroduction de cette espèce en Eure-et-Loire. Quel intérêt présente cette réintroduction pour l'écosystème du Micromys ?
Alors, le but de l'association, en fait, c'est de se servir un peu de cette réintroduction, même si la réintroduction d'une espèce en tant que telle est très intéressante, mais le but, c'est de former un réseau de zones refuge pour la faune sauvage, parce que les graminées hautes permanentes profitent à énormément d'espèces. C'est ce qu'on appelle le Micromys minutus. et ce qu'on appelle une espèce parapluie. C'est-à-dire que si on lui rend des conditions de vie favorables à lui, ces conditions de vie le sont aussi favorables pour tout un tas d'autres espèces, principalement l'entomofaune, enfin les insectes, et puis l'avifaune, les oiseaux. Voilà, donc le but, c'est de créer des zones pour lui, mais qui seront profitables à tout un tas d'autres espèces.
On utilise souvent l'expression « effort de réintroduction » et de fait, c'est un processus qui est long et qui est soumis à de nombreux aléas. Quel est donc le protocole qui a été mis en place et comment a-t-il été élaboré ?
Il m'a fallu des autorisations et des accords. Donc ça, j'ai envoyé le projet à l'ADRIAL, la DDCSPP, l'OFB, donc, qui sont tous les organismes qui s'occupent de près ou de loin de la faune sauvage. Voilà, donc suite à cela, il a fallu effectivement écrire un protocole et le tester parce que évidemment c'est difficile de savoir à l'avance si ça va fonctionner. Ce qui a été retenu en fait, c'est de choisir des terrains donc inutilisés, c'est-à-dire évidemment, il n'est pas question d'empiéter sur les zones agricoles, il n'est pas question d'empiéter sur des zones de loisirs ou autres. Le but, c'est de créer ces zones refuges sur des terrains qui sont jusque-là tondus en permanence et qu'on pourrait laisser au moins en partie un peu en herbe haute, quoi. Mmh. Donc on a choisi d'abord un premier terrain qui était chez un particulier où on a simplement laissé pousser une partie de l'herbe et puis pour faire beau il y a une partie qui a été semée en jachère fleurie. On a laissé monter ça au printemps, donc ça a été semé en avril. Au mois de juillet, c'était très haut, très fleuri. Donc fin juillet, on a mis des caisses de réintroduction. Donc on a mis deux caisses de réintroduction, là je vous parle du premier site, qui font un peu moins d'un mètre cube en bois avec, sur une des faces, un double grillage. C'est-à-dire que les animaux vont être mis dans ces caisses-là sur site pendant un mois pour s'habituer au lieu et ils seront enfermés dans ces caisses-là et donc nourris. Ensuite, au bout d'un mois, on enlève un des deux grillages, le plus fin des deux, qui permet aux micromys de sortir et de rentrer à nouveau, mais en empêchant les autres rongeurs qui pourraient, eux, augmenter anormalement leur population vu qu'on va nourrir dans les caisses. Mmh. Ça empêche le mulot, les souris, de rentrer dans les caisses pour aller se nourrir de ce qu'on met pour les micromys. Ce système-là permet, une réintroduction en douceur parce que les animaux connaissent déjà le lieu et ne vont pas aller se répandre n'importe où en panique. Ensuite, généralement, en un mois, on a eu quelques femelles qui ont mis bas, donc elles vont revenir aussi nourrir leurs petits. Et ça permet de nourrir jusqu'au printemps suivant la population, le temps qu'elles s'implantent et qu'elles prennent ses habitudes. Et ça nous permet à nous, surtout, de faire un suivi des populations en mettant des pièges photographiques ensuite dans les caisses pour voir si ça a fonctionné ou pas. La première fois, évidemment, quand on ouvre les caisses, bon bah tout le monde sort. Et puis c'est tellement petit que on s'est dit en fait il y a plus rien, ça n'a pas fonctionné, voilà. Et puis c'est quelques mois après que on a mis les pièges photos, on voyait les graines diminuer, mais on se disait si ça se trouve, voilà, il y a quand même d'autres rongeurs qui arrivent à rentrer, d'autres animaux. Et puis au bout de 5 jours, on a relevé le premier piège photo et là on s'est rendu compte qu'on avait 1400 photos. Donc au départ j'ai cru que ça serait une herbe qui aurait bougé devant l'objectif ou une autre espèce, et en fait on avait sur les 1400 photos, bon bah on les a même pas toutes regardées, mais il y avait 90% des photos qui sur lesquelles il y avait un Micromys minutus, quoi.
Mmh. Alors d'où viennent les animaux qui sont réintroduits ?
Ça, c'est un tout petit problème que j'ai soulevé, enfin qui a été soulevé dans le projet. Ils ont été fournis gratuitement, et je les en remercie, par le Muséum d'Histoire Naturelle et le Zoo de Besançon. Donc c'est une souche qui est française. Alors, avec des inconvénients, c'est que c'est une souche qui a vécu pas mal de temps en captivité, donc avec un biais sur la sélection qui a pu se faire sur cette souche-là. Et puis, c'est pas une souche eurélienne au départ. À terme, on voudrait quand même capturer quelques animaux qui resteraient sur le territoire pour avoir une population qu'on réintroduit qui soit génétiquement le plus proche possible de ce qu'il y avait avant.
Micromys 28 bénéficie de l'aide de plusieurs associations naturalistes, dont d'ailleurs nos deux associations partenaires dans Touche et Terre. Qu'est-ce que cela permet ?
Alors, ça permet beaucoup de choses. Déjà, ça permet d'avoir des idées, d'avoir un réseau. Pour le Conservatoire des espaces naturels, eux, ils nous ont carrément fourni un terrain pour une réintroduction cette année, donc au niveau du Pont Audet à Dreux. Donc une prairie qu'ils ont laissé monter, qu'ils avaient en fauche jusque-là et qu'ils ont accepté d'arrêter de faucher et sur lesquelles on a mis deux caisses de réintroduction cette année. Ils nous permettent aussi d'avoir des collectes de données sur leur terrain qu'ils pourraient avoir. Et ensuite, il y a Eure-et-Loir Nature qui ont pas mal parlé du projet à leurs bénévoles, ce qui nous a permis d'en recruter un peu pour nous aussi. Et par ailleurs, ils nous ont invités lors de leur fête des 30 ans de l'association. Voilà, j'ai tenu un stand là-bas pour parler de l'association et ça a permis d'augmenter le réseau et puis la portée, la notoriété qui est minuscule, tout aussi petite que le micro-mammifère, de l'association Micromys 28.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, plusieurs animaux ont déjà été réintroduits. Est-ce que vous avez pu d'ores et déjà dresser un premier bilan et peut-être dégager des pistes d'amélioration ou disons d'aménagement du protocole ?
Pour l'instant, on a réintroduit des animaux dans trois zones. Une zone en 2021 et deux zones en 2022. Donc les deux zones de 2022, pour l'instant, c'est trop tôt pour aller juger quoi que ce soit. Hein. Les animaux ont été lâchés il n'y a pas très longtemps. Mm-hmm. Donc on a du recul finalement que sur la première zone où ça a très bien fonctionné avec des pièges photos. Donc le protocole a l'air de bien marcher et tant mieux. Par contre, les pistes d'amélioration, donc déjà ça serait de faire prendre de l'ampleur et de relâcher à plusieurs endroits et de travailler avec... des gens avec qui il y a plus d'impact, des écoles et compagnie. Mais ça serait surtout effectivement de récupérer une souche plus locale pour la réintroduction. Là, dans l'élevage que j'ai 250 individus. Déjà, je vais avoir des problèmes de consanguinité chez moi. Mmh. Et puis ensuite, si je pouvais avoir une souche plus locale, je pense que c'est vraiment la principale piste d'amélioration sur laquelle il faut travailler.
Alors, vous êtes toujours en recherche de terrain pour les réintroductions. Vous faites appel au public? Est-ce que vous faites appel aussi aux collectivités, aux agriculteurs?
Pour l'instant, on a travaillé avec des collectivités. Moi, j'aimerais bien travailler avec des entreprises aussi parce qu'on voit des hangars sur des sites où il y a tout le contour qui est tondu. Voilà, ça, si on laissait en herbe haute, il y aurait 10 fois plus de faune sauvage dedans. Et on pourrait, ça pourrait être un petit projet d'entreprise avec des salariés qui, du coup, seraient impliqués dans le projet. Avec des écoles, ce serait très intéressant, évidemment, pour avoir un impact sur les enfants. Et donc, avec des particuliers, on travaille aussi là-dessus. Voilà, effectivement, c'est les trois grandes pistes qu'on a, enfin, les quatre, disons, collectivités, entreprises, particuliers et écoles, qu'il faut qu'on développe. Pour l'instant, il faut aussi avoir du budget parce que même si, pour une réintroduction, c'est un projet qui est très peu coûteux. Voilà, les caisses de réintroduction, on les fait fabriquer par l'association La Menuiserie Solidaire à Dreux, qui est une entreprise très intéressante qui travaille avec des personnes en réinsertion ou des personnes en situation de handicap. Voilà, et la caisse de réintroduction coûte 250 euros. Donc, pour chaque caisse, il faut quand même qu'on trouve ce budget-là.
Mmh. Alors, Romain Castaigne, une question maintenant peut-être plus personnelle. Pourquoi cet investissement et pourquoi ce mammifère en particulier? Comment avez-vous fait sa connaissance?
Alors, pourquoi cet investissement? Parce que, comme tout le monde, j'ai eu envie de faire quelque chose pour faire avancer les choses dans le bon sens. La biodiversité est un sujet qui me tient à cœur et j'ai mis 10 ans à écrire ce projet, à réfléchir à ce que je pouvais faire dans le domaine de la biodiversité. Alors, pourquoi ce micro-mammifère? Moi, au départ, je suis un fan d'oiseaux, donc c'est vrai que j'aurais bien aimé réintroduire des oiseaux. C'est simplement parce que je me suis rendu compte, en visitant des zoos, en écoutant des choses, que la réintroduction, c'était une motivation majeure pour le grand public. Et je me suis dit, la réintroduction permettait d'inclure un grand nombre de personnes et de dégager de l'énergie. Alors, pourquoi ce micro-mammifère? Bon, déjà parce qu'il se porte très mal et que ses populations chutent drastiquement. Et ensuite, parce que finalement, sa réintroduction et son élevage est à échelle humaine facile à réaliser. Et en plus, voilà, c'est une superbe espèce parapluie. C'est-à-dire que, en fait, si on crée des zones refuges pour la faune sauvage, c'est super. Mais si on dit à un particulier, à une entreprise, ça serait bien que vous arrêtiez de tondre sur cette zone-là, parce que ça va être favorable à la biodiversité. Je suis persuadé qu'ils le feront un an, deux ans, puis en fait, ils se lasseront parce que, au bout d'un moment, on se dit, ça fait pas propre, on va tondre ou je ne sais quoi. Si on leur dit, on le fait, mais on va remettre ce petit animal qui, une fois qu'on l'a vu une fois, généralement, on trouve ça vraiment, sincèrement, très mignon et on s'y attache parce que ça ça a une biologie hyper intéressante. Et ben évidemment, on n'a plus du tout envie d'aller broyer cette parcelle-là parce qu'on sait que sinon on va tous les détruire. C'est un tout, c'est-à-dire que c'est une espèce facile à élever, facile à réintroduire. C'est une espèce parapluie super intéressante avec un capital sympathie vraiment important.
Merci beaucoup Romain Kelsaigne. Alors si on a un terrain à mettre à votre disposition ou si on n'a pas de terrain mais qu'on a envie de soutenir votre association Micromis 28, comment vous contacter?
Alors, vous pouvez nous envoyer un mail sur micromys28@yahoo.fr, micromys28@yahoo.fr, et vous pouvez prendre toutes les infos dont vous avez besoin sur le site micromys28.fr.
Merci beaucoup.
Mais merci à vous.
Merci Romain Kelsaigne. Vous trouverez toutes les références qu'il vient de citer sur la page de l'émission, ainsi que des photos de l'adorable protégé de l'association Micromys 28, qui tiendra son assemblée générale le 18 décembre prochain à 9h30. C'est l'occasion rêvée de rencontrer Romain et son équipe, d'en savoir plus sur Micromys Minutus et bien sûr d'adhérer à l'association. Vous trouverez encore une fois tous les liens sur la page de Toucher Terre qui est toujours, comme vous le savez, très complète. Merci à Eure-et-Loire Nature de nous avoir fait découvrir Micromys 28. Sachez que le numéro de juillet 2022 de la revue d'Eure-et-Loire Nature, La Garzette, contient tout un dossier passionnant sur Micromys Minutus, écrit par Romain Kelsaigne. Et bonne nouvelle, ce numéro est entièrement consultable en ligne. Un mot de l'agenda d'Eure-et-Loire Nature pour le mois de novembre. Deux rendez-vous de chantiers bénévoles qui sont réservés aux adhérents de l'association. Des chantiers pour installer et nettoyer des nichoirs. Ça se passera au bois des Gâts de Châteaudun. Le vendredi 25 novembre et le lundi 28 novembre de 14h à 17h. Renseignements et réservations, encore une fois, pour les adhérents, au 02 37 30 96 96. Dans la dernière partie de Toucher Terre, c'est-à-dire dans un instant, nous retrouverons le chercheur Christian Sardet pour son livre « Plancton aux origines du vivant », paru aux éditions Ulmer. Mais avant cela, quelques notes avec la harpe de l'Irlandaise Grenier Yeats, Carolan's Concerto. Grenier Yeats, la harpiste dublinoise dans Toucher Terre. Christian Sardet est l'un des plus éminents spécialistes français du plancton. Fondateur du laboratoire de biologie cellulaire marine du CNRS, il a cofondé et coordonné de 2009 à 2013 le projet Tara Océan, dédié à l'étude du plancton par des chercheurs de nombreuses disciplines à travers la collecte d'échantillons aux quatre coins du globe. L'objectif, mieux connaître cette multitude silencieuse qui joue un si grand rôle dans l'équilibre de son écosystème et par la même occasion d'une autre. Innombrables sont les espèces de plancton, sachant que derrière ce terme générique se cachent des formes de vie très différentes, tant en taille qu'en aspect et en cycle de vie, en fonctionnement. Le travail de Christian Sardet et de son équipe est un travail de titan et d'orfèvre. D'ailleurs, comme le prouvent les incroyables photographies du livre « Plancton aux origines du vivant », certaines espèces de plancton sont de véritables bijoux. Cet ouvrage, paru initialement en 2013 aux éditions Ulmer, ressort aujourd'hui en librairie en version augmentée chez le même éditeur. Alors en plus de vous plonger dans l'univers incroyable de ces formes de vie dont certaines peuplent la Terre depuis des millions d'années, le livre est notamment désormais jalonné de QR codes, des liens qui vous permettent de vous rendre sur le site internet Chronique du Plancton. C'est le nouveau projet de Christian Sardet sur lequel vous pouvez découvrir des vidéos à la frontière entre la science et l'art. Christian Sardet est aujourd'hui l'invité de Toucher Terre. Christian Sardet, bonjour. Alors derrière ces deux petites syllabes plancton se cache une multitude d'organismes, parfois d'ailleurs très différents entre eux. Qu'est-ce que l'on appelle finalement le plancton ?
Ah bien, le plancton, c'est un vaste écosystème qui dérive avec les courants, parce que le mot plancton vient de planktos, en grec ça veut dire dérivé. Donc en fait, ce sont tous les organismes qui dérivent avec les courants. Et c'est 95% au moins de la biomasse des océans. Et un bon exemple, c'est le poisson. Quand un poisson est sous forme d'embryon ou de juvénile, il dérive avec le plancton. Et puis, dès qu'il peut s'extraire des courants, il ne fait plus partie du plancton. Donc, le plancton, c'est un très vaste écosystème. Ça va des virus aux méduses, en passant par les larves de poissons, et puis tout un tas d'autres organismes unicellulaires en particulier, qui représente une énorme biomasse et une énorme biodiversité. Et c'est le plus grand écosystème sur la planète. Et la biodiversité est aussi la plus ancienne et de loin, puisque les terres n'ont été colonisées que depuis 600 millions d'années, 700 millions d'années. Mais il y a quand même 2 ou 3 milliards d'années avant de vie.
Alors, est-ce que l'on peut établir une géographie du plancton ? Est-ce qu'il est présent dans tous les océans et mers du globe ? Y a-t-il aussi des différences entre les différentes parties du globe ?
Oui, tout à fait. Il y a des régions océaniques où il y a une composition de plancton qu'on peut discerner. Mais il faut bien réaliser que le plancton, c'est aussi très saisonnier. Ça bouge avec les courants. Donc, c'est une dynamique extrêmement complexe, extrêmement rapide, alors que sur Terre, une forêt, par exemple, va avoir une croissance lente et ne va pas bouger au fil des années, vraiment. Pour le plancton, ça peut changer en une semaine. Ce sont des organismes unicellulaires à croissance rapide et division rapide. Des espèces majeures dans des parties de l'océan, par exemple, qu'on voit par satellite sous forme de Bloom, 10 jours après peuvent avoir disparu et être remplacées par d'autres. Donc c'est très différent en ce sens. Par exemple, les végétaux, le phytoplancton, les cellules végétales, c'est des cellules pour la plupart qui sont des unicellulaires, des cellules seules. Comparé aux forêts, il y a une énorme différence. Elles font toutes les deux un peu le même genre de travail, de capter le CO2 et de produire de l'oxygène. Mais dans un cas, les forêts, c'est très lent. Ce sont des très gros organismes. Et dans l'autre cas, le plancton, c'est très rapide. Ce sont des organismes microscopiques. Il y a vraiment une différence fondamentale importante. C'est de la vie. Tout est de la vie.
Alors, le plancton représente, dites-vous, dans l'introduction de votre ouvrage, et vous nous l'avez rappelé, 98% de la biomasse des océans. On comprend dès lors qu'il soit indispensable à son écosystème et au nôtre. Alors, quelle est sa place dans tout ça, au plancton ?
Ah ben c'est des places très importantes, la base de toute la chaîne alimentaire, évidemment. Ce que les organismes que nous voyons dans les océans, les poissons, les baleines, les mammifères marins, se nourrissent ultimement de plancton, peut-être pas directement pour certains qui mangent des poissons, par exemple, mais les poissons eux-mêmes ont mangé des crevettes, qui eux-mêmes ont mangé des cellulaires, des phytoplanctons. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire, qui est très complexe, mais absolument indispensable pour que les grands prédateurs, mammifères et poissons, et méduses évidemment, se nourrissent. C'est une première chose absolument essentielle. Et ultimement, évidemment, des milliards d'humains qui vivent des ressources de la mer. Il y a d'autres aspects, par exemple l'oxygène. Tout l'oxygène sur Terre, au début, a été généré par le plancton. Et maintenant, une bonne moitié de l'oxygène généré est toujours généré par le plancton. L'autre moitié étant par les plantes terrestres et les forêts. Et en même temps que cette génération d'oxygène, évidemment, c'est la captation de CO2 pour faire de la matière organique qui sert de nourriture aux animaux, par exemple. Bon, ça, c'est la chaîne de carbone, hein, chaîne qui utilise le CO2. Mais tous les cycles très importants, calcium, phosphore, etc., sont travaillés par le plancton qui les recircule sous forme de coquilles, sous forme de composants dans les cellules. Les équilibres géochimiques sont très impactés par la biologie. On appelle ça les équilibres bio-géochimiques parce que le plancton, en fait, est un recirculateur de toutes ces matières minérales, par exemple. Carbone, phosphore, etc.
Il y a donc une formidable diversité d'organismes. Quelles sont les principales sortes de plancton? Et est-ce qu'on peut quand même les rapprocher, les classer?
Ah bon, on peut toujours les classer, oui, parce que ces organismes sont quand même assez typiquement différents les uns des autres. Les diatomées, par exemple, sont des unicellulaires du phytoplancton, donc ils font la photosynthèse. Et de façon très importante, puisque au pôle, par exemple, Arctique et Antarctique, les diatomées font un bon tiers, sinon la moitié dans certaines régions, du travail de production d'oxygène et de captation de CO2. Mais ils se fabriquent des carapaces, des petites maisons, on pourrait dire même, en verre. Donc ça, c'est la caractéristique des diatomées. Puis les radiolaires, par exemple, qui, comme leur nom l'indique, sont des organismes en étoile avec des coques en silice, même en strontium, qui est un métal rare, relativement rare. Et voilà, chaque groupe d'espèces, parce que des radiolaires, il y en a des centaines, et puis des diatomées, il y en a des dizaines de milliers d'espèces. Donc chacun a ses caractéristiques, mais on les distingue vraiment clairement, et certains sont les prédateurs d'autres, c'est le cas des petites crevettes, hein, le krill. Le krill se nourrit de diatomées. Il y a des relations très très intenses évidemment entre ces organismes, non seulement prédateurs et proies, mais très souvent des symbioses, des organismes qui vivent ensemble et qui, par exemple, j'ai mentionné tout à l'heure les radiolaires. Et les radiolaires, ben, ils sont truffés de petites algues photosynthétiques, un peu comme les coraux utilisent des algues photosynthétiques pour capter une partie de l'énergie solaire, bien que ce soit des animaux. Ben, c'est pareil dans le plancton. Il y a des planctons qui ont des symbioses avec des algues unicellulaires. Et dans des régions qui sont particulièrement pauvres en nutriments, où ils ont du mal à se nourrir, ben, ils peuvent utiliser la photosynthèse.
Alors, certaines sortes de plancton ont des cycles de vie qui peuvent paraître pour le moins exotiques.
Oui, tout à fait. Ben, comme il y a une très grande diversité et de types d'organismes et d'espèces, évidemment, on trouve une diversité extraordinaire dans les comportements, dans les façons de vivre. Voilà. Alors, les unicellulaires ont des façons de vivre extrêmement variées aussi. Certains ont des espèces de bouches, d'autres ont des flagelles qui leur permettent de se déplacer rapidement. Il y a tout un tas de stratégies, hein, dans le plancton.
Alors, le plancton n'est pas seulement microscopique, loin de là. Il peut aussi se faire géant et certains atteignent même plusieurs mètres de long.
Et oui, certains organismes, on connaît des très, très grosses méduses. qui peuvent faire un bon mètre de diamètre. Il y en a particulièrement en Asie. Mais il y a d'autres organismes qui sont très filiformes. C'est un très, 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 très long filin, très fragile. Donc, la colonie peut se briser et repousser les parties manquantes. Les siphonophores sont de tels organismes. Ce sont des cousins, disons, des méduses. Hein. On appelle ça, tous ces organismes, des cnidaires parce qu'ils ont des filaments urticants qui les caractérisent. Les méduses, les siphonophores. Et les siphonophores peuvent tendre de véritables filets très filiformes sur une cinquantaine de mètres. Donc même plus gros, plus grand que les baleines, mais évidemment, on ne peut jamais les récolter en un morceau, parce que ce sont de longs, longs filaments. Donc, ils se cassent facilement. Mais ils sont capables d'attraper des petits poissons. C'est comme si c'était un organisme qui tendait un filet, en fait, qui a de multiples bouches, qui a de multiples estomacs, etc. C'est des organismes tout à fait particuliers. Ils sont très grands et qui dérivent avec les courants.
Christian Sardet, quand et pourquoi vous êtes-vous intéressé au plancton ?
Eh bien, je me suis intéressé au plancton un peu tardivement dans ma carrière de chercheur. Disons, au niveau de la recherche, je me suis toujours intéressé aux cellules, qui est ma grande passion, aux embryons aussi. Mais comme mon laboratoire était dans une station marine, je me suis intéressé de temps en temps à des organismes qui faisaient partie du plancton. C'était une ressource de modèles expérimentaux intéressante pour moi. Donc, j'ai de temps en temps, par exemple, les siphonophores, j'ai étudié comment les spermatozoïdes étaient attirés par les œufs chez les siphonophores, parce que ça, c'est un phénomène qu'on peut observer qui est très remarquable. Donc, pour ce problème-là, j'avais une petite connaissance des siphonophores. Je n'étais pas un spécialiste du plancton, mais c'est vers la toute fin de ma carrière où nous avons imaginé avec quelques collègues de faire une expédition autour du monde qui s'appelle Tara Océan, qu'à ce moment-là, je me suis passionné pour le plancton d'un point de vue de généraliste, essayer de comprendre un petit peu l'ensemble des espèces qui composaient le plancton et puis d'avoir une vue effectivement de généraliste. C'est à ce moment-là que j'ai fait une série de films et de livres. En fait, pour partager avec mes collègues de l'expédition au départ, il y avait beaucoup de généticiens, beaucoup d'océanographes qui ne connaissaient pas nécessairement les organismes du plancton. Donc, c'était une façon d'échanger sur ce sujet. Et puis, évidemment, avec le public, on avait un volet éducatif, sensibilisation à la biodiversité, en fait, et à l'évolution. Petit à petit, j'ai réalisé que c'était un bestiaire qui n'avait pas été exposé vraiment au public. Même les musées artistiques et les artistes se sont intéressés à mon travail parce que c'était de nouvelles formes, en fait. De nouvelles formes, de nouvelles couleurs. C'était un monde assez peu connu, quoi.
Comment est-ce qu'on étudie aujourd'hui les planctons ? On se doute que les nouvelles technologies ont peut-être facilité les choses ?
Oui, c'était ça la motivation de notre expédition, Tara Océan, avec quelques collègues. On a réalisé que c'était un moment parfait pour faire une exploration du plancton dans tous les océans, en collectant les organismes exactement de la même façon et en collectant toutes les données physico-chimiques qu'on pouvait collecter. Pendant 3 ans, hein, donc, et maintenant pendant 12 ans, puisque ça continue, le bateau a sillonné les océans en collectant tout un tas de plancton dans différents milieux océaniques, près des côtes, dans la haute mer. L'océan n'est pas homogène. Il y a beaucoup de zones particulières intéressantes, des tourbillons, etc., des pôles. Le bateau a sillonné les océans depuis maintenant 12 ans, effectivement, en collectant du plancton. Et quand on est confronté à de tels gigantesques échantillons, il y a 2 grandes voies qui ont été explorées et qui commencent à être très bien au point maintenant. C'est soit on fait l'analyse des gènes, et l'analyse des gènes va donner la clé de combien d'espèces il y a, qu'est-ce que ces organismes font, quelles sont leurs fonctions, comment ils vivent, qui vit avec qui, etc. Il y a tout un tas de choses qu'on peut extraire. C'est ce qu'on appelle la métagénomique. Hein. Nous avons finalement appliqué les mêmes techniques que celles qui sont appliquées au biomédical. quand on essaye de savoir sur des populations d'humains quels gènes, c'est un petit peu le même genre de choses. Et puis aussi l'imagerie, c'est-à-dire il y a des machines maintenant qui permettent de faire des prises de vue automatisées et puis de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance d'images qui permet de classer tous les organismes d'un certain type par leur forme, caractéristiques, etc. Donc quand on met les deux ensemble, c'est très très puissant pour savoir de quoi est fait l'écosystème. Et à partir de là, on peut dire, est-ce que dans ces endroits du monde où il y a exactement les mêmes conditions physico-chimiques, on a le même plancton, etc. On peut poser tout un tas de questions qui sont en train d'être posées. Évidemment, les chercheurs sont spécialisés, donc on va avoir des résultats sur les virus, on va avoir des résultats sur les régions, la question que vous me posiez tout à l'heure, quelles régions existent, on va avoir des résultats sur quels sont les organismes les plus anciens au niveau évolution. Enfin, il y a tout un tas de questions auxquelles on peut commencer à donner des réponses à partir de ces données.
Est-ce qu'il est facile de mobiliser les institutions et le grand public au sujet du plancton ?
C'est lent, mais je pense que petit à petit, les gens comprennent que ces choses qui sont paradoxales que j'ai dit, ça, par exemple, que dans les océans, la majeure partie de la biomasse, c'est ce qu'on voit pas. Et c'est une façon aussi de leur montrer à travers des films et des choses comme ça. Je pense que les gens, petit à petit, comprennent toutes ces choses. Ça met du temps, je crois. Si on a les bons outils, petit à petit, je crois que ça avance.
Et puis, il y a, vous le soulignez tout à l'heure, l'aspect indéniablement esthétique de ces organismes. Et avoir le plancton immortalisé sur les incroyables photographies proposées dans votre livre, c'est vrai qu'on ne peut s'empêcher de penser à des œuvres d'art et même à ressentir de l'émotion par rapport à leur beauté qui est vraiment singulière.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'artistes qui ont été attirés par ce travail. C'est une grande surprise pour moi de voir à quel point peut-être le travail a été le plus apprécié par les artistes, je pense.
On peut peut-être dire un mot de votre propre projet, Chronique du plancton. Votre oui. livre « Plancton aux origines du vivant » bénéficie d'une édition augmentée, justement en lien avec ce projet. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots ?
Oui, ben je pense que c'était très culotté à l'époque, hein, parce que... j'ai dû un peu insister parce que mon éditeur, quand je lui ai dit « mais je veux absolument qu'il y ait des QR codes », il a pris ça pour une lubie. Mais en fait, nous avions fait avec mon fils et l'associé de mon fils, qui est dans le multimédia, nous avions fait une série de films qui sont donc sur les chroniques du plancton. L'éditeur est venu vers moi à cause du site. Donc ce travail sur les vidéos avait amené le travail sur le livre, en fait, qui est un travail, cette fois, photographique, pas de vidéo. Donc je trouvais ça tout à fait normal. Presque chaque chapitre avait son film correspondant. Donc c'est ce que j'ai voulu manifester en mettant les QR codes. Mais les QR codes, en 2013, étaient en voie de disparition en Europe et il fallait une application sur les téléphones. Donc l'éditeur était persuadé que ça ne marcherait pas. À cause de l'Asie, qui n'a jamais cessé d'utiliser des QR codes, et surtout de la pandémie, qui est arrivée où l'usage des QR codes est devenu mondial, et ça a été automatisé sur les téléphones. On n'a pas besoin d'une application. Et donc, c'était une très bonne option de mettre des QR codes dans le livre.
Tout à l'heure, on parlait d'immortalité et de fait, dans votre livre, ce voyage dans l'espace océanique, c'est aussi un voyage dans le temps, d'où le sous-titre de votre ouvrage « Aux origines du vivant ».
Parce que tout le début de la vie est vraiment, d'abord, est dans les océans. Certaines formes de vie qui sont dans le plancton sont là depuis plus de, disons, pour les bactéries, certainement plus de 3 milliards d'années. Donc, on côtoie là nos très anciens prédécesseurs du vivant. Donc, c'est vraiment l'origine du vivant. Oui.
Alors, votre livre a un côté vraiment vertigineux. C'est aussi une belle leçon d'humilité. Le plancton, c'est aussi une forme d'altérité radicale, à tel point que souvent, le plancton, de même d'ailleurs que les créatures des abysses, est souvent comparé à... sorte de population extraterrestre. L'objet de votre livre, c'est aussi de rappeler qu'ils font bel et bien partie de notre planète.
Bah oui, puisqu'ils nous ont même précédés. Donc, ça fait partie intégrante de l'écosystème terrestre.
Christian Sardet, merci beaucoup d'avoir consacré ce temps à nos auditeurs. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Plancton aux origines du vivant, une édition augmentée parue chez Ulmer, à découvrir donc en lien avec le projet Chronique du Plancton. Merci beaucoup.
Merci.
Un très grand merci à Christian Sardet pour cet entretien passionnant dont vous n'avez entendu qu'un extrait. La version longue fera l'objet d'un hors-série de Touche et Terre à découvrir dans quelques semaines sur notre site internet. Je vous conseille vivement la lecture de Plancton aux origines du vivant, qui fait vraiment figure de Bible en la matière. Il est disponible aux éditions Ulmer et vous coûtera 30 euros. Et puis, vous l'aurez compris, cette nouvelle édition est en lien avec le nouveau projet de Christian Sardet, Chronique du Plancton. C'est une plongée vraiment fascinante à la découverte du plancton sous toutes ses formes, en vidéo, en épisode, à retrouver cette fois gratuitement sur le site plancton avec un K, chronicles.org. Bien voilà, c'est la fin de Touche et Terre. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, retrouvez celui-ci et tous les précédents sur notre site internet radiograndciel.fr. Thank you.